Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Minute Papillon.
Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on plonge dans les lignes de code avec un hacker de haut vol, Clément Domingo, alias Sax. Sur le CV, Clément Domingo est ingénieur cyberdéfense dans une entreprise à Rennes. Et ce qu'il n'y a pas forcément sur son CV, c'est que ce vingtenaire est un hacker éthique. Ce chasseur de primes d'un genre un peu particulier participe à des programmes de bug bounty mis en place par les grandes entreprises. Ils permettent de détecter des failles informatiques, les supprimer avant que des cybercriminels ne les exploitent. Alors, si comme moi, vous n'êtes pas expert du monde informatique, j'ai demandé à Clément de m'expliquer son métier et de me donner quelques conseils pour éviter les piratages.
Dans mon quotidien, je travaille chez Soprasteria, donc je suis ingénieur dans les équipes cyberdéfense de Soprasteria, donc pour aider à sécuriser les projets. Donc ça peut être un peu des applications qui vont être demain sur le marché ou qui sont déjà sur le marché. Donc on fait appel à moi et à mes collègues pour venir s'assurer que l'application a bien été codée, qu'on ne peut pas entrer là-dedans, qu'en tout cas si un méchant ne peut pas s'introduire à l'intérieur pour soit nuire ou tout simplement au niveau de l'image de marque ou tout simplement piller les données et vraiment causer du tort.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le bug bounty ?
Le bug bounty, c'est quelque chose de très très nouveau, enfin très nouveau en France. Quand on dit très nouveau en France, on va dire 5 ans, pas plus. Donc là, le bug bounty, pour faire simple, on se projette, enfin en tout cas, on fait un rétro, un pas en arrière dans les années 30. Dans les années 30, on avait un peu les fameux shérifs qui parfois cédaient de la population en mettant des affiches mort ou vif. Donc là, c'est exactement sur la tête de certains fugitifs. Plus le fugitif était dangereux, plus le fugitif était recherché, plus la prime était élevée. Donc là, c'est exactement pareil dans le domaine un peu de la sécurité informatique ou de la cybersécurité. Le but, c'est que les entreprises, les GAFA qui ont un peu commencé cette pratique-là, se disent on va travailler en bonne intelligence avec les chercheurs, avec les hackers dans le monde, sur la planète, et on va leur payer, on va les rémunérer en fonction de la criticité de la vulnérabilité qu'ils vont trouver. Une vulnérabilité, c'est lorsque tu vas trouver une faille sur un site web. Pour être assez concret, par exemple, si sur le site de telle ou telle institution, je parviens à récupérer les adresses mail ou le nom ou le prénom de la personne, ça c'est censé être une vulnérabilité, même une vulnérabilité assez critique.
Est-ce que tu es un hacker ? En France, est-ce qu'on dit hacker ou pas ?
Je pense que la question est assez perplexe dans la mesure où dans le monde un peu, on va dire, entrepreneurial, un peu vraiment dans le monde de l'entreprise, ce terme-là, en soi, il n'existe pas. On connaît plus des ingénieurs en cybersécurité, on connaît plus des experts en cybersécurité ou en sécurité informatique dans les différents domaines. Mais à proprement parler, hacker, non. Par contre, un peu dans le domaine plus de la communauté, ce qu'on va appeler les gens qui vont animer la communauté en France ou en Europe ou dans le monde, oui, ce terme-là, il est totalement connu, ouais, de hacker. Et puis, surtout, c'est assez important de faire ce petit aparté-là lorsqu'on va parler un peu de hacker. C'est toujours la personne qui va être du bon côté et pas ce qu'on a pu un peu entendre dans les 10 dernières, 20 dernières années qui se sont écoulées, surtout en France. Qu'on parle un peu du hacker, automatiquement, on s'imagine le gars avec sa capuche dans son garage totalement... totalement le méchant qui va un peu aller piller tes données et puis après aller les revendre, au contraire, t'espionner avec au niveau un peu de ta webcam. C'est pas du tout ça. En tout cas, le hacker, dans sa conception, dans sa définition même, c'est toujours la personne qui est du bon côté de la force.
Et alors, le hacker éthique qui est du bon côté de la force, il a un code d'honneur comme les Jedi ?
Exactement, un code d'honneur. Enfin, le but, c'est non plus... de papiller tout et n'importe quoi, de savoir un peu ce qu'on fait et surtout d'être là pour aider à démocratiser, à sécuriser notre démocratie, nos données sur Internet, un peu faire d'Internet un espace libre, sécurisé et puis surtout améliorer les choses de manière assez durable. Aujourd'hui, quand on regarde un peu, je pense qu'il n'y a pas un jour où on n'entend pas que telle ou telle entreprise, aussi grosse qu'elle puisse être, enfin que telle ou telle autre institution aussi prestigieuse qu'elle puisse être, ne s'est pas fait hacker.
Concrètement, le bug bounty, on est rémunéré si on trouve quelque chose. Comment ça fonctionne? C'est des primes, c'est des récompenses? Comment ça se passe?
Ça se décline sous différents termes. Enfin, on emploie le terme de reward. Pour la prime, parfois tu peux un peu avoir des rewards en nature. Par exemple, pour certains programmes que j'ai pu faire ici en France ou en Europe ou dans d'autres pays, bah, j'ai reçu des ordinateurs ou des téléphones, ou parfois aussi c'est vraiment en fait bah, typiquement de l'argent. La prime peut un peu commencer à aller à quelques centaines d'euros jusqu'à des milliers d'euros.
Dans ton travail, dans les lignes de code, quelle est ta méthodologie? Est-ce qu'on suit une grille d'action à faire qui est très stricte, ou est-ce qu'on se dit « je suis le Picasso des lignes de code et je vais faire parler mon talent, mon génie à l'instinct ?»
C'est drôle comme question, et je pense que c'est plutôt la deuxième option sur laquelle on partirait.
Ah, donc c'est un peu Picasso?
Bah, peut-être pas Picasso, peut-être pas Pablo Picasso, mais le but en fait c'est de ne pas penser dans le cadre, mais vraiment à chaque fois penser en dehors du cadre. Et je pense que plus... entre guillemets, tu vas être tordu, tu vas vraiment penser à des choses mais totalement loufoques, et plus bah, ça va être bon, quoi.
Est-ce que tu arrives à décrocher?
Très voilà. Important. Ah, surtout pour moi, ouais. J'ai vraiment, on va dire, un sas de décompression d'ailleurs avec des amis qui font pas du tout ce que je fais. Donc on se voit, on fait des soirées, on discute. Je suis aussi un énorme cinéphile, donc c'est en moyenne 3-4 fois au ciné, en tout cas quand je peux. J'ai aussi été chef scout, donc voilà. Donc en fait voilà, il y a vraiment tout ça qui
me
permet un
vie,
peu
tout à côté de tes talents, de tes compétences et de ton travail.
Exactement, en fait. Et je pense que c'est même très important si on veut un peu être un peu connecté à la réalité, tu vois, pour ne pas non plus s'enfermer totalement dans sa bulle, comme parfois certains peuvent le faire, même s'ils sont excellents dans leur domaine. Mais en tout cas, à mon avis, ça c'est vraiment que mon avis, parfois on peut légèrement perdre pied si on n'a pas, on va dire, ces différents sas de décompression.
Quand tu découvres une faille dans un programme, dans un logiciel, qu'est-ce qu'on ressent quand on trouve? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le corps?
Je sais pas si je peux un peu le dire, c'est politiquement correct, mais c'est juste bandant. En fait, tu te dis quand même, enfin, tu me pardonneras l'expression, tu te dis quand même que t'as un peu des personnes qui ont travaillé là-dessus, qui ont un peu implémenté la solution, qui ont vraiment pensé, parfois un peu passé 6 mois, 1 an sur le produit, ont pensé à peu près à tout. Éventuellement, il y a d'autres personnes derrière qui ont commencé un peu à tester la sécurité, parfois même très 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 poussées. Et toi derrière, on fait appel à toi. Bah, tu te dis, ok, maintenant c'est à moi. Comment je vais faire pour utiliser des choses totalement légitimes et pour contourner ça? Et j'avoue qu'un peu le challenge intellectuel pour commencer est très intéressant, je trouve, un peu comment tu théorises tout ça, et a fortiori quand tu le découvres ça, tu te dis « ok, pas mal ».
Faisant ton métier, tu vois que dans le train, par exemple, il y a des gens qui ne protègent pas forcément leur connexion, ou qui laissent leur ordinateur allumé et où il y a marqué en gros « confidentiel ». Qu'est-ce que ça te fait? Je dis ça, je souris dans la question, parce qu'il y a une anecdote qui était aujourd'hui que tu vas nous raconter.
Exactement, bah, tu sais, donc, ce matin je me suis levé donc, pour prendre le train donc, Rennes-Paris, depuis Rennes. Un siège devant moi, donc il y a un monsieur qui est assis, et ce monsieur-là, avant d'arriver à Paris pour une présentation, bah, ce monsieur ouvre son PC, luminosité à fond, donc on voyait assez distinctement, voilà, en fait il n'y a pas besoin d'avoir un peu des jumelles pour voir un peu ce qui s'affichait sur son écran. Bah, ce monsieur se connecte sur pas mal de choses, donc en fait je suis vraiment la scène vraiment de ma place, assez ébahi, et je me dis mais en fait on est en 2020, ce monsieur en fait vient de se connecter au site de sa banque, vient de se connecter sur le VPN de sa boîte, donc en fait là je vais quand même un peu taire d'où ce monsieur là, enfin d'où
c'est
ce monsieur en fait travaillait.
Quelque chose, une institution de l'État, quoi.
Ouais, voilà, une institution, et en fait et surtout en fait à un moment donné il commence en fait à lire ses mails. Et sur deux de ces mails, en fait, c'est tagué confidentiel. T'as un peu, en fait, vraiment le tag confidentiel. Mmh. Et donc, forcément, bah, si j'étais vraiment évil, donc là, je sors un peu mon téléphone, voilà, je prends une photo, je zoome, et je parviens un peu à lire, enfin, plus ou moins, le projet sur lequel il est en train de travailler. Mmh. Et là, je me dis, attends, on est en 2020. On vient vraiment là de passer, un peu là, du coup, d'avoir une nouvelle décennie qui s'offre à nous. En 2020, il y a encore des personnes qui sont pas du tout sensibilisées à ça, surtout pour ce genre de personnes qui travaillent sur des projets, on va dire juste légèrement sensible, voilà, pour ne pas exagérer. Et là, ouais, je me dis qu'il y a quand même en fait un petit souci, quoi. Et c'est là où je me dis en fait que la sensibilisation, elle est encore, mais en fait, il y a encore absolument tout à refaire. Et ce, à tous les strates au niveau un peu de la société, que l'on soit dans l'informatique, que l'on soit un peu dans les nouvelles technologies, que l'on soit un peu dans le domaine du droit, de la santé, que ce soit un peu, du coup, là, mon petit frère, mes parents, des amis, qui soient plus jeunes, plus vieux, en fait, vraiment, je pense que toutes les personnes aujourd'hui ont besoin de cette sensibilisation-là. Parce qu'en fait, si tu le fais pas, bah, tu t'exposes un peu à ce genre de choses-là. Et donc là, enfin, forcément, j'ai un peu près derrière, enfin, juste pour voir jusqu'où je pouvais partir. Donc j'ai, à un moment donné, enfin, suivant un peu, allez, au bout de 15 minutes, ce qu'il faisait, je suis un peu tombé sur son nom et son prénom.
T'as cherché.
Ouais, voilà. Donc après, j'ai fait un peu rapidement ce qu'on appelle un peu de losint. Et donc, j'ai un peu trouvé pas mal de choses sur cette personne. Mais bon, derrière, je suis quand même allé voir cette personne-là. Et puis, juste pour lui dire attention, quoi. Donc, en fait, lui sensibiliser en lui disant est-ce que vous êtes quand même conscient de ce que vous venez de faire là? Et là, voilà. Donc là, on a discuté 10 minutes et s'est rendu compte un peu de, on va dire, de l'ineptie de la chose, quoi.
Si tu pouvais donner un conseil à ton petit frère, à des parents ou à ton entourage, allez, disons 3 règles d'or pour éviter des piratages malveillants.
Première chose qui va normalement intéresser tous les auditeurs, c'est les mots de passe. Les mots de passe aujourd'hui, c'est un peu la plaie. Je suis sûr et certain, dans les personnes qui vont écouter ce podcast, il doit au moins y avoir, enfin, je suis même prêt à mettre ma main à couper, quoique. Quoique, en fait, si je la coupe, je pourrais un peu la remplacer avec un truc...
bionique.
Ouais, bionique. Donc, tu vois, finalement, c'est pas si grave que ça. Mais je suis vraiment prêt à mettre ma main coupée que t'as quand même 80% des gens qui doivent utiliser au moins le même mot de passe pour au moins 5, 6, voire 10 cités plus, quoi. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, surtout au niveau un peu de la période de solde, quand tu vas un peu dans une boutique ou que sais-je d'autre, on te propose assez souvent d'avoir des cartes de fidélité.
Vrai.
Donc, ces cartes de fidélité-là, tu vas donner ton adresse mail, enfin... Ouais. La principale, la plupart du temps. Et derrière, quand tu vas aller chez toi, si tu veux un peu avoir tes points de fidélité ou les chèques et autres, tu vas rentrer un mot de passe. Et ce mot de passe-là se trouverait être un peu le mot de passe que tu utilises déjà éventuellement, soit pour un site un peu plus compliqué comme les impôts ou des choses un peu plus sensibles. Mmh. Et il suffit derrière que un de ces sites, on va dire, un tout petit peu, pas du tout très, très important, comme un peu, je sais pas, par exemple,
ton caviste,
c'est ça, un site de fringues,
Je
suis aussi un très grand fan d'énologie, par exemple, en fait, on imagine un peu que dans ton quartier, t'as un peu un caviste, donc tu vas le voir assez régulièrement. Bah, en fait, ton caviste, il est sur Internet, il se fait pirater, on récupère ton adresse mail, ton mot de passe. Bah derrière, c'est assez simple, c'est assez facile pour remonter en fait toute la chaîne pour un peu retomber sur ton adresse mail perso, enfin du coup ta boîte mail perso et puis certains sites tout petit peu sensibles. Donc une des règles, des choses assez simples à mettre en place, ça demande pas des compétences ni que sais-je d'autre, c'est un peu de changer de mot de passe. Et ça, pour ce faire, il y a un truc hyper simple qui s'appelle être un coffre ou un vault en anglais. Le but, c'est d'avoir à retenir qu'un seul mot de passe. Bah, ce mot de passe-là, il faut faire 20, 30, 40 caractères ou plus de 60 caractères, comme pour certaines personnes. Et puis après, en fait, tu as juste ce mot de passe-là à retenir.
D'accord.
Ce qui fait que derrière, tous les nouveaux sites vers lesquels tu vas te connecter ou créer des comptes, automatiquement, c'est un peu, on va dire, l'application, entre guillemets, qui va te générer un mot de passe.
D'accord.
Donc toi, tu n'as pas du tout à le connaître. Après, tu viens, tu vas juste le pré-remplir. Donc aujourd'hui, tu as un peu les applications comme LastPass qui sont en ligne ou d'autres choses qu'on a un peu envie d'avoir une totale déconnexion avec le système. Tu as des choses un peu comme KeePass qui permettent vraiment de faire... exactement la même chose, quoi.
Ok. Bon, dis donc, ça, c'est un super conseil. Est-ce qu'il y en a un deuxième et un troisième plus court ou c'est...
Deuxième ou troisième, après, on peut encore en donner un autre que...
Allez, deuxième conseil.
Deuxième aussi, c'est un peu au niveau de notre... ça, normalement, beaucoup de personnes vont se reconnaître ou pas, d'ailleurs. Je vais prendre l'exemple avec toi.
Ok, je vais répondre.
Est-ce que tu as un compte Uber ou
oui,
différents comptes un peu comme
j'ai
ça
j'ai un compte pour Uber, oui.
Je parie ma main encore à couper.
Ouais.
Ou peut-être un verre que tu as dû donner ton vrai nom et prénom.
Ah bah ouais, j'ai donné mon vrai nom et prénom.
Et est-ce que d'après toi, c'est nécessaire ou pas?
Pour la facturation pour mon entreprise, quand je fais parfois des reportages à l'extérieur, que je prends un Uber.
Mais est-ce que c'est vraiment important? Enfin,
tu
peux quand même avoir en fait un autre nom pour ta facturation finalement.
J'ai été.
Ok, pareil. On va encore prendre un autre exemple. Mais tout aussi simple, hein. On s'en va un peu, on imagine un peu, je sais pas, sans citer de marque, on va un peu aller acheter des fringues et donc là, le vendeur ou la vendeuse nous demande. Actuellement, on a une opération promotion. Si vous prenez la carte que vous n'avez pas encore, vous allez avoir ça. Ok, donc là, on est intéressé.
Ouais, ça m'est arrivé.
Et là, le vendeur ou la vendeuse commence à te demander quel est votre nom, quel est votre prénom et vos données.
La date de naissance.
Et là, tu donnes absolument tout.
Bah ouais, c'est vrai. Ouais, moyen.
Ouais. Limiter en fait, donc là le conseil un peu sous-jacent à ça, c'est un peu de limiter un peu, on va dire, son impact avec le système, entre guillemets. Mmh. Un peu pour des choses qui ne sont pas du tout un peu... importante, intéressante, on n'a pas du tout besoin de donner son vrai prénom ou son vrai nom, on a juste besoin éventuellement de donner une adresse mail, pas d'ailleurs un peu une adresse mail avec nom, prénom clairement identifié, mais une adresse mail plus générique sur lesquelles on reçoit éventuellement soit des spams et autres, sachant quand même que derrière il y a aussi un autre business où les gens en fait se le revendent, donc ça veut dire que même si on se retrouve un peu dans ces fichiers-là, jamais on va venir directement être impacté directement parce qu'en fait bah, entre guillemets, numériquement, c'est pas nous. C'est une personne virtuelle. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est un peu d'utiliser un peu, on va dire, des espèces un peu d'identité numérique assez, assez neutre. Ouais. Bah, voilà, en fait, vraiment pour les choses du quotidien, on n'a pas du tout besoin de savoir en fait que c'est vraiment un Laetitia ou que c'est d'autres Clément Domingo qui le fait, quoi.
D'accord. Voilà. Donc, la boîte mail où je reçois mes spams, @1111.
Exactement. Et c'est exactement ça. Et par contre, en fait, vraiment, ta vraie adresse mail, c'est là où tu sais que tu vas vraiment recevoir les choses plus importantes, soit du boulot, ou que c'est surtout aussi un peu de la famille, ou vraiment de certains services ici en France, ou en tout cas à l'étranger, beaucoup plus importants. Là, tu peux le donner. Mais là, tu peux être sûr que sur certains, tu sauras que t'as grand maximum 10, 15, 20, quoi. Tu vas pas un peu avoir les 100 000 trucs un peu, je sais pas, limite de il y a 3 ans quand t'étais un peu en Espagne, que t'as dû créer un peu un compte avec cette adresse mail là, tu vas pas te retrouver avec ça, quoi. Voilà, c'est un peu, on va dire, de limiter à minima, voilà, un peu son empreinte. Tout dernier conseil pour certains auditeurs. Aujourd'hui, il y a aussi un peu l'avènement de l'explosion un peu de ce qui va être réseaux sociaux et applications. Parfois, en fait, on met derrière certaines applications ne sont pas vraiment respectueuses de notre vie privée. Donc, elles envoient un peu des données à notre insu. Donc, parfois, si vous êtes un peu friand de ça, ce serait bien, en fait, d'avoir un forfait juste à côté, vraiment un truc dérisoire pour installer ces applications-là, quoi. Pour un peu, on va dire, dissocier votre vraie vie. Sachant qu'aujourd'hui, un peu le téléphone, c'est l'extension de notre personne. Donc, ne pas tout mettre là-dessus, quoi. Il se passe aussi quoi, d'ailleurs? Enfin, en fait, on pourrait offrir des questions encore. Il se passe quoi aujourd'hui si tu perds ton téléphone? Si tu perds, en fait, est-ce que t'es dans la merde, entre guillemets, ou pas? Aujourd'hui, on te vole vraiment ton téléphone. Est-ce qu'on a accès à toute ta vie ou pas?
Ouais, je pense une grosse partie.
Donc, si la réponse est telle, bah, à toi de légèrement changer les choses. En tout cas, pour si on te vole ton téléphone ou pas, qu'on n'ait pas accès à toute ta vie. Voilà.
Merci encore à Clément Domingo pour cet entretien. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner gratuitement au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir, c'est de nous laisser un avis, 5 petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Merci beaucoup et à demain.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.